avec 10 bouts de bois ou les tentilles du quartier, on va quand même dire que les éléphants vont gagner. J'irai 3-2.
Radio G. Just wanna tell you. 101.5 FM.
Vous connaissez Radiovision ? C'est le concours de chansons originales de Radio G. Et la grande finale arrive à grands pas. Ce sera le 13 juin à 21h. En attendant, vous pouvez écouter les 16 finalistes sur radiovision.fr. Alors notez bien, le 13 juin sur cette antenne, à 21h, la grande finale de Radiovision.
Dimanche 7 juin, tout Angers bouge au lac de Maine.
Trail urbain, course des familles, initiation sportive, démonstration, animation.
Venez découvrir plus de 100 disciplines dans une ambiance festive et conviviale. Toute la journée, du sport pour tous avec
des surprises, des défis et de nombreuses associations angevines à rencontrer.
Et bonne nouvelle, Radio G sera en direct sur place à 11h, 13h30 et 17h30 sur le 101.5 FM. Rendez-vous dimanche 7 juin
au village des sports de tout Angers-Bouge, au lac de Maine à Angers.
Plus d'infos sur angers.fr.
18h10, 19h, c'est Topette, la quotidienne de Radio G. Présentée par Pierre Benoît.
La dernière de cette semaine, la fin de saison approche à grands pas. Ça sent le départ de Sidonie notamment, qui fera sa dernière mercredi prochain. Nous, on va continuer, on va finir avec l'équipe des stagiaires, Simon, Marie et Colin. Et puis Sidonie, hein, quand même, qui est toujours là. Sidonie qui fera d'ailleurs une petite chronique, ces petites chroniques surprises. Je sais pas c'est quoi le thème ce soir. Elle m'a dit pas de musique, je veux parler avec ma belle voix seulement pour vous transporter. Ça va pas être long, mais ce sera très efficace. En fin d'émission, juste avant, on aura Colin pour un sujet d'actualité, une chronique en lien avec un sujet d'actualité très local qui concerne même les médias, j'en dis pas plus pour le moment. Marie est près d'un micro, donc Marie, je vais pouvoir lui dire bonsoir.
Bonsoir, bonsoir tout le monde.
La culture ne te lâche pas, je crois, on va parler un peu de culture tout à l'heure avec toi.
C'est ça, et ça sera en lien avec quelque chose que j'ai déjà présenté.
Ah, t'en dis pas plus non plus ?
Non.
Bon bah, suspense total. Le suspense, on va pas trop le maintenir pour vous annoncer les invités de la soirée. On est avec Quentin, Leïla et Laurine de la maison de quartier des Hauts-de-Saint-Aubin pour parler de ce qui se passe en ce moment du côté de la maison de quartier des Hauts-de-Saint-Aubin. Peut-être aussi aborder la saison suivante, l'été, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que la maison sera fermée ? Est-ce qu'elle va rouvrir ou pas en septembre ? J'imagine, oui, ça c'est sûr, mais c'est de savoir comment elle va rouvrir et à quel moment. On pourra peut-être en parler en fin d'émission. Topette, c'est parti pour ce soir.
18h10, 19h, Topette, avec Pierre Benoît.
Pas très bon volet, mais excellent flash info, le point sur les actus locales à Angers dans le département de Maine-et-Loire avec Simon.
J'ai l'info. L'actualité à Angers et dans le département de Maine-et-Loire sur Radio G.
Et on commence ce flash info avec un jeune homme de 23 ans mort dans un accident de la route. Le drame s'est produit ce mercredi 3 juin dans le nord-ouest du Maine-et-Loire et plus précisément dans la commune de Segré en Anjou Bleu, suite à une collision frontale entre deux véhicules. Cet accident a eu lieu sur la départementale D63 à hauteur du rond-point des Chasseurs à l'intersection de la D923. Dans cette collision, une femme de 46 ans a également été blessée, rapidement prise en charge et cette dernière est hors de danger. Une enquête a directement été ouverte par les autorités. Avec la mort de ce jeune homme, on compte désormais 21 décès sur les routes du Maine-et-Loire depuis le début de l'année. Trélazé fête le 30e anniversaire de son festival. Du 26 juin au 17 juillet se déroulera le 30e festival de Trélazé, un événement incontournable qui déchaîne les foules année après année. Pour cet événement, 80 bénévoles seront mobilisés pour assurer le bon fonctionnement du festival. Ce dernier se déroule sur 3 semaines et représente donc un coût important pour la ville à hauteur de 750 millions d'euros. Trélazé pourra tout de même compter sur la participation de plus de 300 entreprises locales qui maintiennent la gratuité de l'événement. Cette année, l'organisation a été quelque peu repensée avec des points d'eau en cas de canicule et des jauges améliorées pour pouvoir accueillir plus de personnes au parc du Vissoir. Et on finit comme d'habitude avec du sport puisque le SCO d'Angers prépare l'après du jeu. C'est officiel depuis peu, Alexandre Dujeu ne sera pas l'entraîneur du SCO l'année prochaine. En poste depuis mars 2023, il était l'un des grands artisans du renouveau du club, avec une montée seulement un an après la descente et surtout deux beaux maintiens en Ligue 1. Désireux de se trouver un nouveau challenge du jeu part pour une nouvelle expérience. Le SCO a d'ores et déjà trouvé des noms pour lui succéder, mais un profil ressort tout particulièrement, celui de Stéphane Gilly. L'entraîneur de 52 ans est libre depuis son licenciement du Paris FC l'année dernière. A voir donc si ça bouge dans les prochains jours sur ce successeur à Angers.
J'ai l'info sur Radio G.
Merci beaucoup Simon, on a quand même oublié de présenter une personne qui n'est pas encore là mais qui va venir en fin d'émission faire une chronique d'actu. Il s'agit de Mathéo. Nos invités, eux, ils sont là, on les accueille maintenant.
L'invité de Topette sur Radio G.
Ce sont les personnes qui représentent la maison de quartier des Hauts-de-Saint-Aubin. On va commencer par la nouvelle voix qu'on n'a jamais entendue. Bonsoir Laurine.
Bonsoir.
En stage actuellement du côté de la maison de quartier des Hauts-de-Saint-Aubin. Jusqu'à quand?
Jusqu'à début juillet.
Ah oui, donc ça va, t'as de quoi t'amuser. Et justement, tu es accompagnée de Leïla. Bonsoir Leïla. Membre du CLAC. Alors je sais qu'il y a des catégories, je ne sais plus exactement dans quelle commission tu te positionnes par rapport au CLAC, le membre de...
Alors je suis dans le groupe communication et je fais aussi partie du groupe Plateau Cidé.
Voilà, c'est celui-là qui me manquait, le CLAC, le collectif d'habitants des Hauts de Saint-Aubin. Et Quentin, alors le terme exact de ton emploi à la maison de quartier de Saint-Aubin, c'est pareil, je te laisse peut-être
ouais, bien
le
sûr,
dire.
Bonsoir à tous, bonsoir Pierre-Benoît. Du coup, moi je suis animateur culturel, animateur du parcours culturel de l'habitant au sein du secteur d'animation culturelle de la maison de quartier.
Voilà, je ne savais pas s'il y avait un socio-culturel quelque part.
Oui, bien sûr, il y a toujours sa traîne.
Voilà, ça, voilà, en tout cas, c'est ça l'idée. Et justement, Quentin, c'est toi qui vas commencer, puisque tu me le disais juste avant de prendre l'antenne. C'est actif en ce moment, c'est la restitution de plein de choses du côté de la maison de quartier des Hauts-de-Saint-Aubin.
Bah exactement, on est sur la période de fin d'année, et du coup, ça veut dire que tous les ateliers de pratique artistique qui ont démarré en septembre arrivent à leur terme à la maison de quartier. C'est le moment du coup de les mettre en valeur, et quoi de mieux pour les mettre en valeur que d'organiser des restitutions. Du coup, on a eu déjà cette semaine une restitution de l'atelier de théâtre qui a fait une représentation de la pièce L'Atelier. Qui a été un franc succès. On a eu 150 spectateurs dans la salle Camille Lepage à la maison de quartier. Donc on espère qu'il y aura au moins autant de personnes qui viendront la semaine prochaine, le 10 juin à partir de 19h, pour la restitution conjointe de l'ensemble des ateliers de musique et de chant qui vont tenir tout un programme autour de chansons de variété française, je dirais, un programme de 2 heures où on va passer de Angèle jusqu'à Metallica. Donc ça promet d'être une excellente soirée. Et la dernière restitution aura lieu aussi la semaine prochaine, vendredi 12, avec les ateliers de danse qui vont faire leur restitution. On a les ateliers de danse moderne jazz avec des enfants qui vont de 6 à 9 ans. On a des ateliers de danse hip-hop, où là, c'est pareil, ça va de 6 jusqu'à 15 ans. Et des ateliers de danse orientale qui vont se succéder tout au long de la soirée.
Alors tous ces ateliers, j'imagine que ce sont des habitants principalement qui participent, c'est juste ou pas?
Oui, absolument. Ça, de toute façon, c'est la vocation de la maison de quartier, hein, c'est de s'adresser avant tout aux habitants du territoire, aux habitants justement qui se trouvent autour de la maison. Mais par contre, c'est pas pour ça qu'il n'y a que des habitants du quartier qui y participent. Hein, voilà, en général, les activités, ça peut attirer à l'échelle de la ville, voire même des villes alentours. Avrier est vraiment très proche, donc on a aussi des Avriers qui participent.
Et toi, Quentin, qui traîne dans les couloirs de la maison de quartier des Hauts-de-Saint-Aubin, qui voit tout, qui entend tout, qu'est-ce que pensent ces personnes-là de ces ateliers? Qu'est-ce qui crée l'alchimie? Pourquoi ces personnes-là sont tant attachées à participer? Et puis, comment elles se sentent aussi, juste à l'approche de ces restitutions?
Déjà, avoir une pratique artistique en soi, c'est quelque chose qui participe à l'épanouissement de chacun. Donc déjà, ça leur permet de se sortir du quotidien, d'apprendre de nouvelles choses et de pouvoir avoir un nouveau moyen d'expression. On se se retrouve aussi dans un groupe qu'on n'a pas forcément l'habitude d'avoir dans la semaine, où justement on a une autre entente, on se retrouve autour d'une, d'une passion commune. Donc c'est ça qui est le plus intéressant. Et c'est vrai que l'engouement en général est plutôt fort chez les participants, parce que dès qu'on approche de la fin de l'année, on a déjà pas mal de questions sur comment on fait pour se réinscrire pour l'année prochaine. Donc la période des réinscriptions va bientôt débuter, va débuter dans le courant du mois, et tout le monde pourra se réinscrire. Parmi les participants pourront se réinscrire pour l'année prochaine, mais pour les nouveaux, ce sera plutôt à partir de septembre.
À partir de septembre, bon, voilà, c'est plutôt positif, effectivement, si les personnes veulent repartir pour un nouveau tour. Est-ce que, Leïla, tu participes, toi
Non, je ne participe pas.
Putain, tu ne fais pas de moderne jazz ou
non,
quoi que
du
ce
tout.
Soit, non. Non, juste la, enfin, juste la commission, oui. Les deux commissions au sein du CLAC, ce qui est déjà pas mal. Laurine, je me tourne vers toi, je pense pas que tu sois particulièrement du quartier, toi.
Non, je suis pas habitante des Hauts-de-Saint-Aubin, donc je ne participe pas. Mais je vois tous les ateliers qu'ils font et ça a l'air trop cool.
Bon, bah voilà, tu vois, même les gens qui sont pas dans le quartier ont envie d'y participer. Quand même, d'un tout petit mot, les infos pratiques, tu les évoquais pour s'inscrire, pour découvrir ou pour découvrir les ateliers qui sont proposés, mais aussi les restitutions. Là, j'essaie de voir rapidement sur le site internet en même temps. Je sais pas si on peut voir le planning, là, des
alors, restitutions, pas encore, des spectacles. Il est en cours de confection. Alors, pour le planning des restitutions, en tout cas, ça, c'est sur le site internet. Vous pourrez aller le voir sur la rubrique de l'agenda ou de la programmation culturelle. Du coup, des restitutions, donc elles sont évidemment consacrées aux proches des gens qui participent, mais ce sont des événements bien sûr ouverts à tous et qui peuvent intéresser tout à chacun, et notamment si vous vous projetez dans la pratique, dans une pratique artistique pour l'année prochaine. Le meilleur temps, sinon, pour pouvoir découvrir les intervenants, la pratique, ce sera, si vous êtes nouveau, ce sera plutôt à la rentrée, à partir du 9 septembre, où on organise un événement autour de la maison de quartier qui s'appelle Festier Rentrée et qui est justement dédié à toutes ces activités qu'on pourra pratiquer à partir de la rentrée. Et ça, du coup, l'information sera bien sûr diffusée sur le site internet dès que possible.
Merci Quentin, tu restes avec nous bien évidemment, tu reparleras tout à l'heure au micro pour l'apéro-concert.
Oui.
Mais avant tout ça, nous avons une soirée partenaire, c'est toi Leïla qui prend la parole. Concert swing du groupe You Rascal Band.
Oui c'est ça, donc c'est notre soirée partenaire avec l'association Flying Swing du coup. Et cette soirée donc, va se tenir à la Maison de Quartier le 13 juin prochain, donc c'est bientôt. Et donc, on va accueillir effectivement You Rascal Band, désolé pour mon accent anglais, pour une soirée placée sous le signe du swing. Donc, je ne sais pas si vous connaissez un peu cette musique, mais...
C'est un peu rock, c'est ça, non?
On est plutôt, oui, dans les années 30-40, on va dire.
Encore
donc,
avant
Oui, donc un peu l'époque des orchestres de jazz, Louis Armstrong, etc. Donc... Donc c'est une soirée qui va être assez vivante et festive, qui va donner envie de danser un peu, quoi. Hein, parce que le swing, c'est quand même ça donne envie de bouger, quoi.
D'où l'expression ça swing.
C'est ça, exactement. Donc le groupe va rendre hommage donc à cet héritage swing, donc qui est plutôt effectivement américain des années 30 à 40. Et puis il va revisiter notamment les répertoires de Louis Armstrong, comme je disais. Qui est quand même une figure incontournable hein, du jazz mondial. On retrouvera aussi des influences plutôt blues et jazz traditionnel dans le cadre du concert. Donc, c'est vraiment le type de concert qui sera accessible aux amateurs qui connaissent bien ce type de musique, mais aussi en fait à n'importe qui, à quelqu'un qui a envie de découvrir un peu l'univers, aux plus jeunes peut-être, parce que c'est peut-être un style un peu, on va dire, moins écouté peut-être par les jeunes, je sais pas. Donc c'est la bonne occasion de rencontrer un peu le style. Donc l'intérêt de la soirée, c'est qu'il ne s'agit pas seulement d'un concert assis, c'est bien ça. C'est vraiment une soirée à part entière, donc il y aura la musique. Et bon, bah, l'esprit swing, en fait, comme il est profondément lié à la danse et au partage, et bah, c'est l'occasion. Ça va être chaleureux, convivial, et les gens qui voudront pourront danser. Voilà, et écouter de la bonne musique, c'est effectivement l'enjeu de la soirée, quoi. C'est une soirée. Donc, il y aura un bar hein, sur place, aussi, évidemment. C'est une soirée qui se déroulera de 21h à 2h du matin, donc c'est une vraie soirée. Et puis voilà, donc avec des musiciens, un public et on espère beaucoup d'énergie. Et voilà, c'est l'occasion aussi de se rencontrer entre habitants du quartier. Bon, sachant que c'est ouvert évidemment aux personnes qui ne sont pas du quartier, qui peuvent être dans les quartiers autour ou dans les villes à côté, quoi.
Et c'est couvert même, puisque du coup, c'est dans la salle Camille
Lepage.
C'est
ça, c'est dans la salle Camille Lepage. Donc, on est sur un tarif à 15 euros. Et comme c'est une soirée partenaire, donc avec l'association Flying Swing, la billetterie se trouve sur helloasso.com. Donc, pour prendre vos places, il faut se rendre sur le site internet.
Donc, faut taper, par exemple, Flying Swing, Angers, Maison de Quartier de Haute-Saint-Aubin,
exactement, puis on va trouver le lien. Oui, tout à fait. Vous tapez Flying Swing ou Yuraskel Band, je suppose, ça fonctionne. Helloasso.com et puis vous tombez sur la bonne page et vous pouvez prendre votre place.
Merci.
Voilà.
Dans quelques instants, toi, tu nous reparleras de Blind Test musical.
Tout à fait.
Un petit peu plus tard dans le mois de juin, mais avant tout ça, on va entendre la voix de Laurine. Mais encore avant tout ça, on va entendre celle de Marie qui nous propose une petite chronique maintenant dans Topette. Rebonsoir Marie.
Rebonsoir. Alors, je vous ai déjà parlé de Aubusson Tistolken et toutes les activités autour de cette exposition. Mais laissez-moi vous parler d'un autre événement que personnellement j'attends avec impatience. Le Grand Bal d'Eldoria qui se déroulera au Château d'Angers du 13 au 14 juin 2026. Au programme, les expositions La Chaumière du Bout des Rêves et Mytholon qui sont des expositions de costumes et de figurines fantasy. Il y aura aussi un marché fantasy et une e-shop afin d'y rencontrer des petits créateurs, acheter des petites choses, de vous restaurer ou encore de tisser des liens avec les autres sans bien évidemment faire de mauvais jeu de mots avec l'exposition Aubusson Tistolken, pardon. Je ne vous dévoile pas tout ce qu'il y aura dans cet espace, mais je peux vous donner un petit aperçu déjà, notamment avec Art Nocturne où vous pouvez vous faire tatouer des petites choses médiévales. Mais attention, ce sont des prestations payantes, donc il faut prévoir quelques petits sous de côté. Il y aura aussi des ateliers possibles avec des créations de blasons, de l'initiation au tir à l'arc elfique et encore plein d'autres trucs. Et si vous souhaitez amener vos enfants, cela est également possible avec des activités pour les publics plus jeunes, avec un parcours fantastique ou alors encore la guerre des gnomes. Je me demande pourquoi d'ailleurs. Un concours de costumes aura aussi lieu le samedi à 21h où vous pouvez arriver avec vos cosplays fantasy, que vous soyez amateur ou professionnel. Il y a encore plein d'autres activités, mais ça serait trop long à expliquer. En revanche, je vous recommande fortement d'y aller si vous souhaitez passer un bon moment et vous amuser un maximum dans un univers fantasy. Musique, spectacle et rire, vous avez l'embarras du choix avec les activités proposées. Pour prendre vos billets, vous pouvez aller sur le site du Château d'Angers avec un billet journée ou un billet soirée ou encore un pass week-end. C'est accessible pour tous, alors n'hésitez pas.
Merci Marie. Effectivement, très très intrigante proposition. Notamment, j'ai retenu le tir à l'arc elfique. Voilà, je sais pas ce que ça signifie. C'est peut-être.
Je pense que c'est avec l'arc, etc. Enfin, souvent les elfes, ils sont très connus justement pour être très doués au tir à l'arc et leur précision, etc. Donc peut-être que c'est en lien avec ça. À voir.
Pas nécessairement être déguisé en elfe.
Et pourquoi pas.
Être un elfe, on peut aussi.
Si on a envie, je pense qu'on peut. Hein.
Ouais, Simon, le tir à l'arc elfique, ça te tente?
Bon, pourquoi pas, mais pas le déguisement d'elfe, par contre.
Ah, ok. Bon, c'est dommage. On aurait bien aimé voir Simon en elfe, mais ce sera pour une autre fois. Merci Marie, tu restes avec nous. On va continuer dans Topette avec nos invités. On retourne du côté de la maison de quartier des Hauts-de-Saint-Aubin.
Topette sur Radio G.
Toujours avec Quentin, Leïla et Laurine, la nouvelle voix de la maison de quartier des Hauts-de-Saint-Aubin, jusque début juillet, hein, puisque tu es en stage jusque-là.
C'est ça.
On peut dire ou pas dans quel cadre tu l'effectues ton stage?
Oui, c'est parce que je suis en master de direction de projet culturel et je suis venue à la maison de quartier principalement pour organiser la fête de quartier et les événements hors les murs de la maison de quartier.
Donc c'est en plein dedans, ça correspond un peu à ce que tu veux faire.
C'est ça.
L'idée c'est quoi? C'est de travailler en tant que directrice d'une maison de quartier un jour ou pas?
Je sais pas du tout. Pour l'instant, je prends de l'expérience un peu partout et je verrai au fur et à mesure.
Et ça c'est une belle mentalité, hein. C'est un petit peu ça, Quentin me contredira pas, la culture faut l'aborder de cette manière-là. Hein.
Exactement, et de plein de manières différentes et du coup, accumuler des expériences c'est très bien.
Bon, en voilà une de plus du coup, je sais pas si tu avais déjà fait de la radio, en tout cas ce soir tu nous parles de « Nous à vous », un concert musical pour un jeune public.
C'est ça, en fait, tout au long du mois de juin et de tout l'été, on a plusieurs événements qui ont lieu en extérieur de la maison de quartier. Par exemple, demain, le vendredi 5 juin, on a un événement... Qui sera rue Yvette et c'est organisé par les habitants de cette rue-là. Et on aura plein de, d'activités avec notamment un concert Zouk de Décalé Catin, un groupe de musique qui viendra nous présenter ses chansons. Et après, on aura d'autres événements au cours du mois de juin. On aura aussi le 17 juin un après-midi. Le mercredi, on organise souvent des après-midi à destination des familles, mais pas que, mais aussi des adultes. Et donc, on sera hors les murs pour organiser un petit spectacle à destination des enfants. Ce sera le groupe Barbu qui viendra nous présenter son spectacle. Et il y aura également les Francas qui viendront avec des fusées à eau pour faire plaisir aux enfants qui pourront s'amuser. On espère qu'il fera beau ce jour-là, sinon ça va être un peu compliqué.
Alors je refais ma terminologie de tout un tas de choses. Fusées à eau, c'est quoi ?
En fait, c'est des petites fusées en plastique qui s'envolent avec la pression de l'eau. Et c'est assez fun à faire.
Et on peut être en dessous et prendre plein d'eau sur soi quand il fait chaud, c'est ça l'idée aussi ?
Bah, c'est mieux qu'il fasse chaud, sinon c'est un peu chiant d'être mouillé.
Mais sinon, il faut prévoir le cas, ouais, effectivement. Alors ça, c'est donc le 17 juin.
Le 17 juin à partir de 16h. Et le 20 juin, on a une visite du quartier. On organise régulièrement des visites du quartier pour faire découvrir aux habitants les différents éléments. Et le 20 juin, ce sera une mise à l'honneur de la résidence Village. Et c'est une résidence Auriol qui est juste à côté de l'Aquavita. Et les places sont limitées, donc il faut s'inscrire à l'accueil de la maison de quartier pour venir, mais c'est ouvert à tout le monde et c'est gratuit.
Ouais, toujours hors les murs du coup. L'idée de, c'est la maison de quartier des Hauts-de-Saint-Aubin, mais c'est le quartier des Hauts-de-Saint-Aubin. Là, on essaie de rappeler qu'on est là pour le quartier aussi. C'est un peu ça l'idée.
Ouais, le but c'est de mettre en avant l'ensemble du quartier parce que c'est un quartier qui est assez vaste. Il y a un peu différents îlots au sein du quartier, et donc pour pouvoir réunir un peu tout le monde et que tout le monde découvre l'ensemble du quartier, on organise plein d'événements comme ça.
Oui, en plus c'est un quartier qui a été, je sais pas si t'es en juin initialement, mais qui a été extrêmement rénové ces 10 dernières années au moins, donc il y a peut-être aussi une identité à refédérer, se rappeler qu'on est tous ensemble dans ce quartier sans être exclusif au quartier alentour, hein. Mais tu le sens ça ou pas, cette hétérogénéité des profils, des personnes qui viennent
Ouais, c'est clair. Moi, je suis pas angevine à la base, et donc je découvre complètement le quartier, mais j'ai bien senti qu'il y avait vraiment à la fois un côté très historique et un côté très moderne, et il y a différentes populations, des gens qui viennent de s'installer ici depuis quelques mois, mais aussi bien des gens qui vivent là depuis vraiment 30 ans. Donc je pense que c'est ça qui fait vraiment la richesse des Hauts-de-Saint-Aubin.
Ouais, ça fait une effervescence certainement. Toi, Leïla, qui vit au cœur de ce quartier-là, c'est un peu aussi le propos, le regard que t'en as.
On l'a vu changer. Là, il y a des constructions partout. Il y a énormément de gens qui sont en train d'arriver. C'est un quartier qui grossit très très vite, quoi. Donc, c'est vrai qu'on a différents types de populations. C'est ça qui est intéressant aussi. Et là, on voit des nouveaux arrivés. Des immeubles qui sortent de terre. Enfin, c'est un quartier qui grandit très vite. Et du coup, c'est aussi la richesse du quartier. Je pense que à l'avenir, la maison de quartier va avoir du travail, va pouvoir rencontrer encore plein de nouvelles personnes, et c'est intéressant effectivement. Et ces événements hors les murs, ça permet à ces habitants aussi nouveaux, je pense, de s'enraciner un peu dans le quartier, quoi. Donc c'est intéressant. Ouais.
Oui, d'aller les chercher d'une certaine façon. Laurine, tout à l'heure, on parle d'un événement le 17 juillet. Hein, celui-là, on le laisse de côté, je crois, pour l'instant. On n'a pas encore parlé, il me semble.
En fait, au cours de l'été, on a trois grandes soirées qui vont avoir lieu.
Tu en parles maintenant ou on laisse un petit peu de suspense et on respecte l'ordre chronologique de que Quentin proposait ? On fait comment ?
Comme vous préférez.
Peu m'importe.
Bah écoute, on va respecter l'ordre chronologique de Quentin, et puis comme ça, tu auras l'occasion de reparler juste après, Laurine.
J'ai l'air d'un dictateur, c'est terrible.
c'est moi qui l'ai fait en plus.
Et ben voilà, c'est Leïla.
Le pauvre.
Leïla, du coup, on va respecter ton conducteur à toi. Tu voulais, dans l'ordre chronologique des choses, parler de ce qui se passe le 27 juin. Et en plus, on l'a annoncé juste avant, donc on va donner satisfaction aux auditeurs, auditrices. La soirée Blind Test Musical.
C'est ça.
Qui est animé par une association, donc toujours l'idée d'un partenariat, exactement. Mettre en avant les choses qui se font.
Donc une association qui s'appelle Hop Hop Hop. Donc c'est une grande soirée blind test, donc qui va avoir lieu le 27 juin à 19h. Et donc là, on est dans un changement complet d'ambiance. Ça va être une grande soirée blind test organisée avec cette association. On peut parler de HPC parce que je crois que c'est le groupe de jeunes quoi, donc qui organise tout ça, donc en partenariat avec l'association qui va un peu animer en fait, qui va un peu animer cette soirée.
Le HPC, juste pour préciser, du coup, c'est un sous-collectif de collectif dans la maison de quartier des Hauts-de-Saint-Aubin, Hype Hop Culture,
ouais,
pour
c'est
proposer
que...
des ça.
Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'originalité nous sur les Hauts-de-Saint-Aubin d'avoir un équipement culturel qui est programmé par les habitants de la maison de quartier. Ce collectif s'appelle le CLAC, tu en as parlé tout à l'heure, et du coup, on a pas mal de sous-groupes qui s'attachent à des disciplines artistiques, mais on a un groupe en particulier qui est constitué de jeunes et qui est suivi en particulier par nos collègues de l'animation jeunesse, des groupes qui vont de, je crois, de 18-25 ans, qui s'est donné pour nom Hype Hop Culture, du coup HPC, qu'on appelle chez nous HPC, et le but c'est qu'ils puissent proposer des activités qui s'adressent à des jeunes de leur âge et qu'ils puissent faire un peu bouger maison de quartier. Le blind test, c'est vraiment une super idée.
Blind test, donc le principe, est-ce qu'on a besoin de le rappeler, Leïla,
rappelle quand même, mais oui. Bon, c'est un peu, tout le monde connaît, c'est quelques secondes d'un morceau de musique qui est passé, et puis après, il faut retrouver le titre ou l'artiste le plus rapidement possible. Donc c'est intéressant parce que c'est une soirée qui est un peu pensée comme un événement intergénérationnel dans le sens où on va avoir des jeunes, des moins jeunes. Ce qui est intéressant aussi, c'est le partage de la musique. Et puis ça permet de réunir en fait dans la salle des personnes qui n'ont pas forcément toutes les mêmes références musicales. Donc ça peut aussi participer à l'ambiance, aux rencontres. On peut imaginer par exemple que des grands-parents puissent reconnaître certains titres et pas forcément les jeunes. Donc c'est intéressant parce que je pense qu'il va y avoir cet échange va permettre aussi peut-être des découvertes musicales, je pense. Oui. Enfin moi personnellement, je suis pas vieille et je suis pas jeune, mais c'est le genre de soirée où je pense que je peux effectivement faire des découvertes musicales. Donc donc le blind test, c'est ça va être assez amusant. On va découvrir un peu les goûts de chacun. C'est un moment un peu collectif, quoi. On va partager un peu le patrimoine commun musical, donc c'est sympa. C'est une association donc qui anime la soirée, comme je disais, qui s'appelle Hop 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 et qui est habituée à animer ce type d'événement avec beaucoup d'humour et d'interaction avec le public. Donc l'objectif, c'est pas seulement de gagner, évidemment, même si c'est cool, mais c'est aussi effectivement une soirée de partage et créer une ambiance un peu détendue. On peut participer évidemment seul, mais avec ses potes, venir en famille. Donc ça peut être une soirée sympa. Alors en plus, c'est une soirée qui est hyper accessible puisqu'elle elle a un tarif à 3€. Elle est même gratuite pour les moins de 25 ans. Donc franchement, c'est faut y aller parce que c'est vraiment accessible quoi. Alors du coup, voilà, moi je pense que j'ai... Oui, alors il y aura un bar restauration sur place aussi. Donc,
il y a tout ce qu'il faut.
Il y a tout ce qu'il faut pour passer une super soirée, un bon moment.
Bon, et ben les infos pratiques, on les redonne tout à l'heure.
Donc le 27 juin à 19h.
Ça, c'est le plus important, 3€ et 0€ si vous avez moins de 25 ans.
Exactement.
Ok, et ben c'est bien noté pour... Décidément, ça fait beaucoup de dates très intéressantes à noter. Et c'est pas tout à fait fini, on va continuer avec vous, bien évidemment. On va parler apéro-concert, soirée d'été, puis on va revenir avec Laurine sur ces événements hors les murs. Mais avant tout ça, on fait un petit détour par Colin, pardon, qui veut nous parler d'un sujet d'actualité locale et médiatique.
Depuis plusieurs mois maintenant, je découvre le métier de journaliste à travers mes études, mes stages et mes expériences personnelles. Et plus j'avance, plus je réalise une chose. Derrière un article que l'on lit en quelques minutes, il y a énormément de travail, de pression parfois, mais aussi une vraie responsabilité. Alors cette semaine, un sujet local m'a particulièrement marqué. Depuis plusieurs jours, les journalistes du Courrier de l'Ouest sont mobilisés. Un appel à la grève a même été lancé lundi 1er juin par le Syndicat National des Journalistes. En cause, un malaise interne dénoncé depuis plusieurs années, avec des critiques sur le management, l'organisation du travail ou encore certains choix éditoriaux. Le déclencheur de cette grève, c'est le départ annoncé d'un journaliste historique, Anthony Pascot, après plus de 30 ans passés au Courrier de l'Ouest. Selon le SNJ, le journaliste aurait décidé de quitter l'entreprise sans solution de reconversion, je cite, « pour se préserver » et se disant usé par un management jugé trop vertical, ainsi que par un contenu parfois en contradiction avec sa conception du journalisme et sa conscience professionnelle. Mais au-delà de ce conflit interne, cette situation raconte surtout quelque chose de beaucoup plus large. Les difficultés que traverse aujourd'hui le journalisme local, et plus particulièrement la presse quotidienne régionale. Parce qu'on l'oublie parfois, mais des journaux comme le Courrier de l'Ouest jouent un rôle important dans notre quotidien. Ce sont eux qui racontent les conseils municipaux, les événements culturels, les faits divers, les compétitions sportives locales, la vie associative ou encore les initiatives citoyennes. Des sujets qui paraissent parfois modestes, mais qui construisent en réalité le lien entre les habitants d'un territoire. Sans presse locale, beaucoup d'informations disparaissent totalement des radars. Et pourtant, ces médias vivent aujourd'hui une période particulièrement compliquée. Les habitudes de lecture changent, les ventes papier baissent, les réseaux sociaux prennent de plus en plus de place, et les rédactions doivent désormais penser aussi en termes d'audience numérique, de clics et de rapidité. Résultat, les journalistes doivent produire toujours plus, toujours plus vite, mais avec de moins en moins de moyens. Et c'est là que la question devient importante pour nous tous, parce qu'une information locale de qualité demande du temps. Elle demande des journalistes présents sur le terrain, capables de vérifier les faits, de rencontrer les habitants, de comprendre le territoire et ses enjeux. Quand un média local souffre, ce ne sont pas seulement des salariés qui sont touchés, c'est aussi une certaine manière d'informer qui se fragilise. Dans une époque où l'on parle énormément de désinformation, de fake news ou de contenu généré en masse sur les réseaux sociaux, le rôle du journalisme local reste essentiel. Il permet de garder un regard humain, proche du terrain, sur ce qu'il se passe réellement autour de nous. Et finalement, derrière ce conflit au Courrier de l'Ouest, il y a une question qui nous concerne tous. Quelle information locale voulons-nous demain ? Une information rapide, pensée pour les clics et les algorithmes, ou une information de terrain, humaine, capable de refléter réellement la vie d'un territoire ? Parce qu'un journal local, ce n'est pas seulement du papier ou un site internet, ce sont des journalistes qui documentent une ville, ses habitants, ses colères, ses fêtes, ses débats et ses contradictions. Et si plus personne n'est là pour raconter tout ça, c'est une partie entière de la vie démocratique et sociale locale qui deviendra silencieuse.
Merci beaucoup Colin, très bel édito, c'est plus un édito qu'une chronique et effectivement très juste, très très sincère, on sent que ça vient du cœur et que ça te concerne aussi puisque effectivement c'est le domaine, la filière dans laquelle tu te lances, donc très intéressant d'avoir ce point de vue là et puis je pense que ça peut nous amener aussi à réfléchir à ces propos. Merci beaucoup Colin, je pense que Mathéo est jaloux de ta chronique, mais bon, tout à l'heure ce sera à son tour avec la chronique d'actualité. En attendant on fait un petit détour par Sidonie qui elle a une chronique, je ne sais pas sur quoi.
Bon, changement de programme, je devais parler des messages, SMS et toutes les galères que ça engendre. Mais je vous avoue, j'ai un peu la flemme de parler d'un sujet boring, surtout pour ma dernière avec Pierre Benoît. Donc je vais me lancer. J'avoue, je suis pas très forte en discours et encore moins en ce d'au revoir. Mais bref, quand je suis arrivée dans Radio G, j'étais un peu paumée et je pensais trouver des collègues. Mais à la place, j'ai rencontré des personnes formidables, et parmi elles, bah, il y avait bien sûr Pierre Benoît, mon tuteur pour cette folle aventure. Je crois que ce qui me fera le plus sourire quand je repenserai à cette période, c'est pas les émissions et toutes les galères qu'on a pu rencontrer. Parce que oui, il y en a eu des galères, hein. Mais ce seront nos fous rires, nos chansons improvisées, tes danses dignes de Michael Jackson, nos discussions sur tout et n'importe quoi, et bien sûr, tes fameuses blagues. Les meilleures. Pierre Benoît, t'as réussi à rendre les journées plus légères, les moments compliqués plus faciles à traverser et les journées ordinaires beaucoup plus mémorables. Attention par contre, prends pas la grosse tête, hein, mais tu fais partie de ces personnes qui mettent de la bonne humeur partout où elles passent, souvent sans même s'en rendre compte. Aujourd'hui, je pars grandi de ces moments grâce à toi pour commencer un nouveau chapitre. Mais je pars aussi avec un pincement au cœur. Parce que au-delà du service civique, je laisse derrière moi des personnes auxquelles je me suis attachée. Et toi particulièrement, Pierre Benoît. Des collègues, on en rencontre beaucoup dans une vie. Mais des collègues avec qui on peut rire jusqu'à en avoir mal au ventre. Chanter faux avec fierté et faire des conneries. Ça, on en a fait quand même. Et j'avoue, ça n'arrive pas à tous les jours. Alors merci Pierre Benoît. Merci pour ton humour, même quand il était un peu douteux. Merci pour ta bonne humeur, tes nombreuses anecdotes et pour tous les souvenirs qu'on a créés ensemble. Je vais être honnête, ça va me faire bizarre de plus t'entendre sortir une blague gênante au moment où personne ne l'attend. Je te souhaite le meilleur pour la suite, ne change rien. Continue à faire rire les gens et à être cette personne un peu folle, mais profondément attachante qu'on aime tous. Ikra imesen, denke vuel for roles.
Oui, ça, merci beaucoup, Sidonie. Merci. Je savais que tu ferais un truc comme ça, finalement. Mais bon, je me suis dit, voilà. Merci. Je te renvoie tout autant de plein de compliments et tout. Tu sais très bien tout le bien que je pense de toi. Et puis, et ces belles choses que tu as dites, elles sont également vraies pour toi. Merci pour cette saison passée ensemble. Et puis, je te souhaite surtout bon courage parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, tu as grandi. Et ça, ça a fait plaisir parce que tu es venu avec quelques incertitudes, mais certaines certitudes dont tu n'étais pas certaine. Tu attendais de les vérifier. Et j'espère que, en tout cas, je pense que tu les as vérifiés maintenant et que tu es armé pour avoir plus de confiance en ces certitudes. Je ne sais pas si c'est très français, mais je pense qu'on a compris l'idée. Allez, un petit extrait musical, comme ça on va bien comprendre ce qui a pu se passer, notamment cette année.
Salut, je n'ai pas d'intro, pas de drapeau ni de tableau. Ça dégueuline dans le corner.
Voilà, le genre de musique. C'est nous qui chantons, hein, clairement. Voilà. Donc, on chante pas si faux que ça, finalement, Sidonie. C'est pas tout à fait vrai ce que t'as dit. Bon, en tout cas, tu restes avec nous jusqu'à la fin d'émission, bien évidemment. Elle fera son retour mercredi prochain. Dans quelques instants, il y a Mathéo et sa chronique d'actu qui arrivent. Mais avant tout ça, on retourne un petit peu du côté de la maison de quartier des Hauts de Saint-Ouen.
Topette, avec Pierre Benoît.
Ah, j'en ai eu la voix coupée, t'as entendu, ça s'est arrêté directement à la fin. Il nous reste deux, trois petites actualités à évoquer avec Quentin et Laurine, notamment pour les temps forts. Alors, on parlait de l'apéro concert. Quentin, je te laisse, l'apéro concert, il y a un concert, de la musique, on peut manger. Alors, c'est Jean-Marie habituellement qui nous en parlait très bien, je crois.
Oui, exact.
Effectivement.
Voilà, donc,
Mais là, Jean-Marie, il est parti faire tout un trek au Portugal, il remonte jusqu'en France à pied du sud du Portugal, il en a pour des semaines,
c'est
donc,
très
je prends
murs,
le relais.
Le coup.
Ouais.
Et ben on t'écoute Quentin.
Donc effectivement l'apéro concert c'est un concept qui est du coup organisé par une frange du CLAC qui s'y dédie et leur but c'est de pouvoir organiser une soirée conviviale autour d'un artiste, d'un répertoire et aussi de pouvoir en parallèle cuisiner des assiettes de tapas justement qui sont proposées aux participants de ces soirées afin de rendre la soirée encore plus conviviale et encore plus délicieuse. Alors là c'est la saison d'été qui commence, donc on a la chance à la maison de quartier de bénéficier d'un espace intérieur mais qui est extérieur qu'on appelle le patio, un endroit charmant, surtout que quand on le transforme à l'occasion de ces soirées en sorte de mini guinguette citadine, voilà, parce qu'on n'est pas au bord de l'eau mais voilà,
on est en terrasse quand même. Quoi.
C'est ça, on est en terrasse, l'esprit s'y retrouve totalement. Et donc pour cette soirée, ce dernier apéro-concert de notre saison culturelle, on accueillera un groupe qui s'appelle Spy Shuffle Drivers. Et c'est un trio de musiciens, des musiciens qui ont plutôt beaucoup voyagé, qui ont pas mal de bouteilles en termes de musique. Donc voilà, ils s'appellent Spy parce que ça reprend les initiales de leur prénom. Donc on a Sylvain pour le S à la basse, on a Patrick à la batterie et à l'harmonica, et on a Yann à la guitare et au chant. Leur musique de prédilection, c'est bien sûr le funk, le boogie et tout ce qui groove. Donc ça promet d'être une soirée qui va comme pas mal faire bouger le public. Et en somme, ils reprennent surtout des standards qui sont justement sur ce genre de répertoire musicaux.
Donc ça, c'est l'apéro concert ouvert à tout le monde,
c'est payant, du coup, si vous souhaitez juste participer au concert, l'entrée est à 5€, si vous souhaitez aussi bénéficier de l'assiette de tapas qui va avec, il faudra rajouter 5€ supplémentaires, donc ça fera 10€ l'entrée.
Et réserver, c'est mieux pour être sûr d'avoir les bons stocks.
C'est ça, et surtout parce que on est dans le patio, la jauge est limitée, le dernier apéro concert qu'on a fait la semaine dernière, voilà, on était 80, totalement complet, donc n'hésitez pas à réserver, bien sûr, il y a un bar à l'intérieur pour tout ce qui est consommation de boissons à prendre en plus.
Bon, on était dans la salle Camille Lepage avec le blind test, là on est dans le patio, on retourne hors les murs pour de bon avec toi Laurine, et on peut évoquer les deux dernières dates que je t'ai coupé dans ton élan tout à l'heure, hein, t'étais parti pour les évoquer. Alors il y a le 3 juillet et le 17 juillet, spectacle de danse et concert aussi, et un spectacle art de rue.
Oui, c'est ça. En fait, on fait des soirées d'été, l'été. Ça porte très bien son nom. On est très fort en la maison de quartier. Et on en a une le 3 juillet et une le 17, mais je vais vous parler surtout de celle du 3 juillet pour pas vous noyer d'informations. Donc le 3 juillet, ce sera au Parc Bockel. C'est dans la continuité de notre fête de quartier qui avait lieu en mai dans ce même parc. Et ce sera à partir de 18h30. C'est gratuit et ouvert à tous. Et il y aura d'abord un spectacle de plusieurs danseurs chorégraphiés par Josué Bunga, pardon, qui est chorégraphe et danseur étudiant du CNDC. Et ensuite, il y aura un concert de musique par Issa Soribamba. Donc, ce sera de la musique afro-rock et mandingue. Il vient du Mali. Et le but des soirées d'été, c'est que tout le monde puisse venir et que, au cours de la soirée, on met des barbecues à disposition. Et tout le monde peut échanger le repas, passer un bon moment ensemble devant les concerts. Donc c'est un moment chouette où tout le monde peut se rassembler, c'est gratuit, n'hésitez pas à venir.
Tu nous l'as tellement bien vendu que moi je vois déjà le soleil, tout ça, les fusées à eau peut-être de nouveau, le retour. Donc ça c'était pour le 3 juillet, donc le 17 juillet, art de rue, spectacle art de rue.
Oui, c'est ça. Et ce sera tout sur le même principe.
Au même endroit
Non, le 17 juillet on sera plus au Parc Bockel.
On sera à quoi ? Est-ce qu'on sera au Jardin en Étoile ? C'est peut-être là-bas.
Oui, je crois que c'est ça.
On sera hors les murs pour sûr.
Oui,
c'est sûr.
Au Haut-Saint-Aubin pour sûr.
Bon, et ben voilà, et ce sera du coup la dernière date hors les murs avant juillet. D'ailleurs, 17 juillet, elles sont rentrées trop dans ton intimité, ton organisation de planning de ton été à toi. Ton stage sera fini, tu seras peut-être plus impliqué sur cette date.
Moi, je ne serai pas là le 17 juillet, mais vous inquiétez pas, mes collègues seront là. Donc,
voilà, ce sera bien organisé sera malgré tout. Il y a des ressources et de belles équipes à la maison de quartier des Hauts-de-Saint-Aubin. Est-ce que ce sera la der avant septembre ou pas, Quentin Léglin?
Bah oui, absolument. C'est la fin de la saison. On va après fermer la maison de quartier pendant 15 jours début août. Voilà, sur la première quinzaine d'août où l'ensemble des équipes va prendre un repos bien mérité après cette année bien active. Et donc on rouvrira la maison de quartier. Le premier événement de rentrée, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est évidemment Festi Rentrée le 9 septembre. Et pour tout ce qui est lié à la culture, au lieu culturel des Hauts-de-Saint-Aubin, le démarrage de la saison sera le 1er octobre, avec justement un événement spécifique pour ouvrir cette saison, qui sera autour d'expositions de chants chorales. Voilà, j'en donne pas trop pour pouvoir garder un peu des effets de surprise. Et dans la foulée, dès le lendemain, on aura du coup un spectacle de théâtre qui, pareil, j'essaie juste de garder un peu de mystère, mais qui ne tiendra pas que lieu dans la salle de spectacle. Voilà, ce sera un petit peu partout. Ça promet d'être un grand spectacle avec plusieurs comédiens, un grand nombre de comédiens. Donc voilà, je garde un petit peu le mystère.
Eh ben, tu le fais très bien. Voilà de quoi nous donner déjà envie. En tout cas, toutes les infos pratiques sont à retrouver sur le site internet là.
MQHSA.com.
Parce que tout à l'heure, j'ai inversé, ils m'ont proposé Mishka dans le temps de recherche.
Non, pas tout à fait. Personnage. Donc, MQHSA.com. Et la maison de quartier est au 19 rue Marie-Amélie Campbell. Vous pouvez aussi prendre vos places quand un spectacle vous intéresse. Et sur le site, vous pouvez retrouver la programmation.
Et on a les petits flyers aussi un petit peu partout.
Exactement. Disséminés en tout ville. À fait.
Super. Et ben, merci beaucoup, en tout cas, Leïla.
Merci à toi.
Quentin et Laurine d'être venus dans Topette ce soir.
Merci
pour la fin de saison, la fin de
tout ça
aussi. Et puis, à très bientôt.
À bientôt.
Nous, on va se garder un petit peu de temps parce que voilà qu'arrive le plus beau, le plus grand, le meilleur, the best of the best. Non, c'est juste Mathéo finalement qui est là pour sa chronique d'actualité.
Nous avons vécu une fin de mois de mai absolument folle, 8 jours en tout du 21 au 30, aux chaleurs impressionnantes du jamais vu en France pour cette période de l'année. La moitié de l'Hexagone a connu de nouveaux records mensuels, soit un équivalent d'environ 300 stations météo. Un pic a d'ailleurs été observé le mardi 26, la journée la plus chaude jamais enregistrée en France, en mai, avec une moyenne nationale de 24,8 degrés et des pics à l'ombre à 37,8 à Angoulême, à 37,6 à Narbonne ou encore à 37,4 à Perpignan. Selon Météo France, elles étaient par endroits supérieurs de près de 15 degrés au-dessus des normales de saison pour atteindre plus de 40 degrés au soleil. Du jamais vu, un omni pour les scientifiques comme l'expliquait Gaël Musquet. Il est météorologue spécialiste de l'anticipation des risques et des catastrophes naturelles. Il l'expliquait sur France Info, c'était lundi de la semaine dernière.
Oui, là on a dépassé même des températures que l'on n'arrive même pas à atteindre l'été. Donc c'est dire à quel point on est sur quelque chose d'exceptionnel. Sur l'île de Sein, par exemple, on a frôlé les 30 degrés. C'est des températures qu'on a du mal parfois à atteindre en plein été. Donc c'est dire à quel point, effectivement, pour un mois de mai, on est en avance par rapport à ce qu'on était en droit ou accoutumé à rencontrer l'été avec cette masse d'air chaud qui remonte.
C'est la première fois aussi qu'une vigilance canicule est déclenchée en mai, une statistique à nuancer par le fait que la canicule a été intégrée en 2004 au sein du dispositif vigilance, mais quand même une précocité inédite sans véritablement de répit, puisque même la nuit, les températures dépassent les moyennes de saison journalières. Elles qui vont de 18 à 21 degrés du nord au sud ont été balayées par des chaleurs nocturnes atteignant les 26 degrés au Cap Béhar. Dans le Maine-et-Loire, ces fortes chaleurs ont aussi fait des dégâts. Le département a été placé en vigilance orange canicule par Météo France et a battu des records de température, 34 à Segré, 35 à Cholet, jusqu'à 36 à Saumur. Angers a évidemment été touché, avec un pic à 34,8 degrés mardi dernier, balayant un record vieux de 80 ans et les 32,8 degrés observés en 1947. Tout est historique, mais à qui la faute? Un couvercle, le même que vous mettez sur votre assiette au micro-ondes, avec le même effet, celui de garder la chaleur et de l'amplifier. On appelle cela un dôme de chaleur. Il résulte d'un anticyclone qui, une fois installé, forme un blocage en oméga, qui bloque le jet stream. Je vous ai pris l'exemple du couvercle et du micro-ondes. Il en existe d'autres. Le plus important, c'est de bien comprendre que l'air chaud ne peut pas s'élever ni s'échapper véritablement de ce dôme, d'autant que la pression de celui-ci force l'air emprisonné en haute altitude à descendre, le comprimant et faisant augmenter sa chaleur. Et le dernier point qui explique ce dérèglement total, c'est la disparition des nuages. On peut dire qu'ils n'ont pas été vraiment d'un grand soutien pendant ces 8 jours. Cela s'explique par ces fameuses hautes pressions qui les font tout simplement disparaître. Le soleil a donc tout le loisir de réchauffer le sol, y compris l'air qui est comprimé. Ces dômes de chaleur sont habituellement des mécaniques d'été, or c'est important de le rappeler, mais nous sommes encore en printemps. Fini donc les fenêtres étroites des saisons caniculaires concentrées généralement dans le mois de mai, enfin dans le mois de juillet et d'août, pardon. On pourrait même s'attendre à des chaleurs de ce type en octobre, désormais, puisque celles-ci ont un dopant. Nous, c'est ce qu'explique Valérie Masson-Delmotte, elle est paléoclimatologue et co-autrice des rapports du GIEC, invitée par le journal L'Humanité.
En ce qui concerne le réchauffement, ce que je veux aussi mentionner, c'est que les événements extrêmes chauds sont une conséquence directe des émissions de gaz à effet de serre, notamment liées aux énergies fossiles, et du réchauffement. Et donc, quand le climat se réchauffe en moyenne, on a des extrêmes froids plus difficiles à atteindre, moins fréquents, et on a, à l'inverse, des extrêmes chauds beaucoup plus fréquents, beaucoup plus intenses. Et ça, c'est quelque chose qui est établi depuis longtemps, que l'on observe, que l'on comprend. Ce qui est particulièrement remarquable, c'est effectivement l'intensification des extrêmes chauds en Europe. Mmh. Alors, comme on le voit maintenant, donc de manière précoce, mais aussi avec des records qui augmentent au cœur de l'été en intensité, et sur une plage plus longue, c'est-à-dire du printemps à l'automne. Et ça, vraiment, c'est la conséquence d'un climat qui accumule de la chaleur.
Et il est toujours bon aussi de rappeler que la France est le pays le plus touché d'Europe par le réchauffement climatique, avec une hausse de 2 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle. L'Europe qui est d'ailleurs le continent le plus touché après l'Arctique, c'est dire. Selon le dernier rapport de Copernicus, les vagues de chaleur s'intensifient sur 95% du vieux continent, la faute à un réchauffement deux fois plus rapide que la moyenne mondiale. En Turquie, par exemple, la barre des 50 degrés a récemment été atteinte. L'Islande a enregistré sa deuxième fonte annuelle la plus importante de son histoire. Le Groenland a perdu 139 gigatonnes de glace l'an dernier. Et les superficies ravagées par les incendies de forêt ont atteint des chiffres records de 1 million d'hectares en 2025. Dans ce même rapport, le conseiller principal au service climat de la Commission européenne avoue, je cite, « Ce n'est pas assez, nous devons accélérer. » Et preuve encore que l'ennemi de l'homme, c'est l'homme. Les climato-sceptiques gagnent aussi du terrain, d'où l'intérêt d'un rappel constant et grandissant de l'impact du réchauffement climatique que nous avons instigé sur notre quotidien. Selon le baromètre de l'ADEME, plusieurs études, dont celle publiée en novembre 2024 par l'association Parlons Climat, c'est entre 30 et 40% des Français qui auraient des penchants climato-sceptiques, qui douteraient de ce réchauffement et de la cause aussi. Alors, porter médiatiquement le climato-scepticisme, on rappelle que ça rapporte, et ce, depuis toujours. Dans les années 80, Total Energy finançait de faux experts missionnés afin de nier toute existence du réchauffement climatique, tout en ayant parfaitement conscience forcément de l'impact environnemental de leurs activités, et ce, depuis 1971. Un scandale révélé en 2021 dans le média Global Environmental Change, à une époque où ces affaires commencent doucement à s'ébruiter, avec comme pionniers de la désinformation climatique les entreprises d'énergie fossile ExxonMobil et Royal Dutch Shell. Un petit peu plus tôt, donc en 2013, des rapports de Greenpeace et d'autres ONG ont montré que les fondations de la famille Koch, donc propriétaire de l'entreprise pétrochimique Koch Industries, ont injecté plus de 145 millions de dollars de 1997 à 2018 dans un réseau de près de 90 think tanks et groupes de pression afin de bloquer des lois liées au réchauffement climatique. Alors aujourd'hui, c'est plus difficile de cacher les 2 degrés de plus avec toutes les connaissances que l'on a et toutes les séquences comme celles que nous avons eues récemment. On fait alors appel à du greenwashing, donc de la part des entreprises. Greenpeace définit le greenwashing comme ceci, donc cela consiste à tromper le consommateur / consommatrice sur le véritable impact environnemental d'une entreprise en affichant une image plus responsable et plus soucieuse de l'environnement, alors que ce n'est pas le cas. En février 2023, par exemple, Total utilisait un rapport du GIEC datant de 2022 pour justifier son développement des champs de pétrole, niant ce qui était écrit donc noir sur blanc par les scientifiques, à savoir que cela n'était absolument pas la chose à faire. Le climato-scepticisme ne date pas d'hier, il est porté désormais par des politiques jusque dans les administrations, notamment aux États-Unis, dont le ministère de l'Énergie a publié fin 2025 un rapport fallacieux de 150 pages visant à la dérégulation des émissions de gaz à effet de serre. Alors rien d'étonnant finalement, puisque le ministère de l'Énergie américain est dirigé